ekolo ya bango na bolingi bwa bango men baye ekolo Congo démocratique ntuku sambona mitano pe baye ba bengana kakuna na Afrique du Sud uta basanza motoba bango bazali kobika na pasi awa sika bazwa nyonda ku mosala ya ministère ya affaires sociales awa oingumba mokonzi Kinshasa wapi pai bazali kozela lisungi ya mbula mata ripote bako kabongo kozonga na etuka Katanga wana sango tolengela kipo ya bino botika malamu boboto umbo kabino
Okapi
Okapi Okapi
Je vous invite à suivre à présent l'émission Dialogue entre Congolais avec Jean-Claude Toumba Kamanga.
Bonsoir. Près de 900 civils tués entre fin décembre et mi-janvier dernier par les rebelles ougandais de la LRA dans la province orientale. Bilan de l'ONG Human Rights Watch qui appelle au renforcement des casques bleus dans cette partie du pays. Cette ONG internationale l'a dit dans son rapport publié hier lundi à New York aux États-Unis d'Amérique. Il porte sur les massacres de Noël 2008 suite aux attaques de ces rebelles ougandais sur les civils congolais dans la province orientale. Où en est-on avec les opérations conjointes au moment où l'armée ougandaise souhaite prolonger sa présence dans cette région jusqu'à la neutralisation de ces rebelles? Nous recevons pour vous dans ce débat Joseph Bangatia, vice-gouverneur de la province orientale, et il est en ce jour ici à Kinshasa. Donatien Kanindia, il est député national du MLC, élu de la province orientale, et Pierre Kibaka, président de l'ONG Justice et Libération basée à Kisangani. Bienvenue à tous dans cette émission.
Dialogue entre Congolais. Vous voulez participer à l'émission? Réagissez par SMS au 081 05 15 778 ou appelez-nous au 081 890 66 78.
Voilà, on me signale par Thierry La Musique et à la réalisation que nous avons deux invités en ligne. Bonsoir à vous.
Bonsoir, Jean-Claude.
Voilà, merci d'être en ligne. On attend le troisième invité. On va me préciser pour le savoir. Où en est-on avec les opérations conjointes en province orientale au moment où l'armée ougandaise souhaite prolonger sa présence dans cette région jusqu'à la neutralisation de rebelles ougandais de la LRA? C'est la question principale du débat. Mais d'abord, l'actualité sur cette question avec la requête de l'ONG Human Rights Watch. D'après le rapport publié hier lundi par cette ONG internationale, près de 900 civils tués entre fin décembre et mi-janvier dernier par les rebelles ougandais de la LRA dans la province orientale. Human Rights Watch en appelle au renforcement des casques bleus dans cette partie du pays. Réponse de la MONUC. La mission onusienne en RDC n'est pas en mesure de déployer des casques bleus supplémentaires au nord de la RDC, tel que le demande la chercheuse principale chargée de la RDC, de l'ONG Human Rights Watch, Anneke van Vondenberg, dans ces termes, qui s'est exprimée ce mardi. Le porte-parole de la MONUC, Manoje Munubai, explique ici les limites des forces de la MONUC. Il est au micro de Guy Maté.
Nous faisons notre mieux et notre maximum avec les moyens que nous avons. Pour répondre à votre question, aujourd'hui, la MONUC ne peut pas faire plus. La MONUC ne peut pas faire plus parce que, comme je vous l'ai dit, nos forces sont à la limite de leurs moyens. C'est d'ailleurs pour cela que, comme vous le savez, le secrétaire général avait demandé au Conseil de sécurité, qui a approuvé, une augmentation de 3000 hommes pour la MONUC. Et nous attendons ces 3000 hommes. La MONUC ne peut pas être partout, mais la MONUC, dans son action de soutien au FRDC, assure à cette force nationale d'être un peu partout, à Doromou, à Faradje, etc., etc. La responsabilité première de la sécurité de la population dans un pays revient au gouvernement. Donc c'est les FRDC qui sont les premières forces concernées dans la sécurisation de la population congolaise.
Alors la première réaction, c'est avec vous, monsieur le vice-gouverneur. Bonsoir, Joseph Bangatia.
Oui, bonsoir.
Oui, la réaction par rapport aux explications de Manoje Munubai, le porte-parole de la MONUC, sur la requête de Human Rights Watch.
Bien entendu, je dois vous rappeler que nous collaborons, le gouvernement de la République démocratique du Congo collabore sur cette opération de traque de la FDLR avec la MONUC. Et donc, nous travaillons en étroite collaboration. Et bien, nous sommes dans le rétablissement de l'autorité de l'État dans la neutralisation des forces négatives. Et bien entendu, nous tenons compte du facteur protection des populations civiles.
Oui.
Je comprends très bien que Human Rights Watch pense plus pour ce dernier aspect que nous avons largement amélioré depuis le début des opérations.
Qu'est-ce que vous en pensez, Donatien Kanindia, monsieur le député national du MLC? Je rappelle que tous les invités, vous êtes au téléphone. Là.
Bien, merci. Je pense que vous me captez très bien.
Oui, vous êtes en direct.
Oui, je pense que le constat qu'il faut faire, c'est que Human Rights a compté à sa manière. On peut aller au-delà de ces chiffres. Quelle que soit l'amélioration de la situation sécuritaire sur le terrain, je voudrais ici soulever un point.
Oui.
C'est que, quelle que soit l'issue des opérations contre la LRA, à partir du moment où il y a déjà des morts, il y a des massacres, comment réparer cela? Qui va répondre? À qui il faudra poser la question en termes de dédommagement de toutes ces familles qui sont tombées, n'est-ce pas, et qui sont victimes de ce qu'on appelle des faits collatéraux.
C'est ça la question. Oui, Donatien Kanindia, vous allez.
Donatien, s'il vous plaît. Le ministre de la Justice de notre.
S'il vous plaît, Donatien. S'il vous plaît.
Donatien Kanindia. Tout ce qu'ils sont en train de faire avec l'Ouganda.
Donatien Kanindia, s'il vous plaît, vous allez peut-être un peu plus vite en besogne. On va revenir à la question principale du débat. Je voulais peut-être avoir un petit commentaire de votre part sur les explications du porte-parole de la MONUC par rapport justement à la requête de Human Rights Watch. C'est sur le renforcement des casques bleus dans la région de la province orientale.
Sur cette question précise de la MONUC, je pense que la MONUC n'est pas sa première déclaration d'acceptance, comme quoi il n'est pas en mesure de faire plus. Et j'ai suivi le porte-parole de la MONUC lors de points de presse hebdomadaires le mercredi passé. Il a dit la même chose. Et il ne cesse de le dire avec raison que la responsabilité première de la sécurisation de la situation est comme au gouvernement. Donc, il faudrait à ce stade que le gouvernement prenne en considération ses points de vue de la MONUC pour ne pas continuer à compter sur cette force internationale qui se dit bien être à ses limites. Et non seulement ça d'ailleurs, quelle que soit l'opération avec l'Ouganda contre la LRA, que ce soit les opérations au Nord-Kivu, la MONUC n'est pas être vraiment directement affichée à ces opérations.
Donc vous
là, il faut comprendre tout ça.
Oui, donc vous semblez comprendre les explications de la MONUC. Et qu'est-ce que vous en pensez, vous, Pierre Kibaka? Vous intervenez depuis Kisangani. Bonsoir.
Bon, en fait, vous voyez la réaction de Human Rights Watch est liée aux massacres qui ont été commis dans ces régions-là. Et Human Rights Watch a compris que l'armée nationale congolaise est limitée pour la protection des civils dans cette contrée. C'est comme ça que dans cette requête, elle a demandé, cette organisation donc, a demandé à ce que la MONUC puisse renforcer ces hommes là-bas pour sécuriser les populations civiles. Mais à attendre la réaction du porte-parole de la MONUC, je crois que le porte-parole de la MONUC a bien fait de faire comprendre au gouvernement congolais que la responsabilité première de la sécurisation des personnels de leurs biens dans le territoire national incombe bien à l'État congolais. Donc il est tout à fait normal qu'aujourd'hui, notre État comprenne que c'est lui seul qui est responsable de la sécurisation des personnes et de leurs biens, sans compter, bien sûr, sur les appuis extérieurs.
Tout à fait. Voilà, ça nous permet de poursuivre cette émission avec la partie essentielle du débat. Où en est-on avec les opérations conjointes en province orientale au moment où l'armée ougandaise souhaite prolonger sa présence dans cette région jusqu'à la neutralisation de rebelles ougandais de la LRA? Nous en parlons tout de suite et c'est juste après ce rappel de nos adresses pour vous qui voulez réagir.
Dialogue entre Congolais. Vous pouvez encore participer à cette émission en téléphonant au 081 890 66 78 ou encore par SMS au 081 05 15 778.
L'armée ougandaise quittera ou ne quittera pas le sol congolais d'ici la fin de ce mois de février? La réponse à cette question à l'issue d'une rencontre prévue ce mercredi à Kinshasa entre les hauts responsables des FARDC et de l'armée ougandaise. Les troupes ougandaises traquent depuis décembre 2008, aux côtés notamment des FARDC, leurs compatriotes rebelles de l'armée de résistance du Seigneur LRA dans le district du Haut-Touélé Kinshasa maintient sa position de voir les troupes ougandaises rentrer d'ici la fin de ce mois, au moment où Kampala estime que le travail n'est pas encore fini. Des détails avec notre confrère Jean-Paul Bassina.
La rencontre de ce mercredi à Kinshasa prévoit des discussions entre le chef d'état-major général des FARDC, le lieutenant-général Didier Itumba et son homologue ougandais général Karombo. Selon les porte-parole du gouvernement congolais, l'officier ougandais devra présenter au cours de ces discussions les plans et les calendriers de retrait de ses troupes du sol congolais. Lambert Mende déclare que Kinshasa veut déjà voir ce retrait s'effectuer avant la fin de ce mois de février. Kampala, de son côté, pense qu'il serait imprudent d'arrêter les opérations militaires conjointes tant que Joseph Kony et ses hommes ne seront pas encore neutralisés. Major Félix Koulagué, porte-parole de l'armée ougandaise, a suggéré d'éviter la précipitation.
Il n'y a pas de raison de se précipiter. Pour le moment, les LRA tuent des Congolais, non des Ougandais. Les LRA enlèvent des Congolais, non des Ougandais. Est-ce qu'avant la fin de ce mois de février, ces opérations auront-elles déjà atteint son objectif? Si nous capturons ce rebelle connu, ça serait une bonne chose. Mais s'il n'est pas capturé, pendant qu'il est encore entouré de combattants avec qui se promène, ça ne servira à rien. Le Congo n'est pas notre pays. Si le gouvernement congolais veut que nous puissions quitter, nous allons quitter. Certes, nous laisserons les LRA continuer à massacrer les Congolais.
Cet officier ougandais a aussi agité que son armée attend la décision finale qui sera prise par les chefs d'État des deux pays. Bounia, Jean-Paul Bassila, Radio Okapi.
Alors, je reviens encore à vous, Joseph Bangakia. Maintenant que vous êtes au studio, en fait, vous étiez en route vers les studios. La qualité, bien sûr, de votre intervention va s'améliorer. On a l'impression qu'il y a une sorte de discordance entre les autorités congolaises et ougandaises sur le départ des troupes ougandaises.
Bien, très rapidement, je voulais quand même dire que le gouvernement congolais, pour réagir aux propos précédents, c'est très bien que la sécurité des personnes, des Congolais, des Congolaises et de leurs biens lui incombe. Et nous n'avons pas démissionné devant nos responsabilités, nous le prenons, nous les assumons. C'est la raison pour laquelle il y a une large amélioration de la situation sécuritaire de nos populations. Mais par rapport à cette question, vous comprenez avec moi que les Ougandais ne posent aucune résistance. Le principe du départ est acquis et accepté.
Mais ils vous demandent de ne pas vous précipiter.
Oui, les partenaires ont le droit de nous faire leur part de leurs avis et considérations. Et ils ont reconnu que ça dépend de nous de donner une suite favorable ou non par rapport à cette requête. Mais je dois dire qu'à l'état actuel de la situation, les FARDC ont bel et bien la capacité qu'il faut pour ratisser la région infestée autrefois par la LRA et les mettre hors d'état de nuire. Mais bien entendu, c'est vrai, vous savez, avec les considérations de politique intérieure, surtout ici à Kinshasa, le sujet est sensible. Mais bien, si on doit le voir de manière nette, hors de toute émotion, la demande ougandaise ne peut pas soulever Ir et moi, mais la question et la situation est que la RDC a une position, nous voulons qu'il quitte notre territoire, et donc c'est par rapport à notre détermination, à notre volonté, à notre position que les Ougandais devront se mettre en œuvre.
Une précision d'abord, vous êtes à Kinshasa, est-ce que c'est pour ces travaux prévus demain?
Bien, je ne vais pas parler au micro du travail que je fais, que j'ai l'honneur de faire pour le bénéfice de la RDC.
Mais je dois faire un rapport avec l'évaluation qui est prévue entre les officiels ougandais et congolais.
Non, bon, comme responsable, je suis responsable provincial de cette partie du territoire, donc j'ai toute ma place dans ce genre de discussion.
Bon, donc on comprend que vous êtes convié en fait à ces travaux, mais vous ne voulez pas trop vous étendre là-dessus. Par rapport au départ justement des troupes ougandaises dans l'ancien Kanindia, vous pensez que les Ougandais qui font partie de la coalition, il faut rappeler FARDC, armée ougandaise et armée sud-soudanaise, est-ce que le travail est fini?
Est-ce que le travail est fini? Je pense qu'il faut d'abord noter que toute cette question des plus hauts responsables de notre pays et de l'Ouganda ont été discutées l'institution nationale et respecte sa décision internationale. Le code de presse de conseiller Javier ici était attendu sur cette question. Et je suivis sur la radio Bukati, votre radio, que après le code de presse d'ici, le président ougandais a fait aussi le code de presse, il a donné le code de presse que le porte-parole militaire ou le chef d'état-major de l'Ouganda continue à maintenir. Donc, il y a le plus haut responsable qui se prononce, et puis, est-ce que justement ce plus haut responsable qui se sont contredits entre eux? Parce que les gens font ça qu'il faut noter. Alors, cette contradiction soulève deux questions de fond. La première question est que l'accord qui est déjà signé reste peut-être ambigu à ce qu'on appelle le terme de référence, donc 4 ou 5 000 des opérations. Parce qu'il se dégage que chaque partie donne sa position, non pas en rapport avec l'accord, mais en rapport avec ça, à quoi de voir la chose. Ça, c'est une première contradiction. Et la deuxième contradiction, c'est au niveau de l'évaluation même des opérations. Vous vous rendez compte que, pour la partie congolaise, les opérations sont bonnes, si bien que les forces ougandaises peuvent rentrer et que n'est plus assez de risques. Et pour la partie ougandaise, vous vous rendez compte que les opérations ne sont pas encore arrivées au point où ils devaient arriver. Les objectifs sont loin d'être atteints, si bien que la partie ougandaise demande que les forces restent. Donc, il y a deux contradictions de fond.
Oui, mais qu'est-ce que vous soutenez, vous, qu'est-ce que vous soutenez? Que l'armée ougandaise reste dans la coalition ou elle devrait plier bagage?
Écoutez, il ne faut pas oublier que c'est plus de 21 ans que l'armée ougandaise se bat contre la LRA sur les territoires ougandais français. Et que ici, on ne sait pas comment, en 21 jours, c'est des succès, ou au mois de février, du 16 juillet, ces opérations pourront être, avoir effectué les succès possibles. Je pense certainement que, parce que nous sommes tous unis de la fête, sinon que des questions qui devaient être corrigées au départ lorsqu'on a demandé, que ces gens des questions ne soient pas prêtées. Parce que nous sommes devant un fait accompli, je pense qu'il faudra que les deux parties, pour l'expérience de la population. Parce que là, maintenant, c'est la place qui est exposée, vous avez entendu, c'est porte-parole, donc l'officier militaire ougandais, quand il a
parlé. Essayez de vous aider, s'il vous plaît.
Il faut que les deux parties se mettent d'accord et trouvent un point d'attaque pour, en tout cas, éviter que la LRA continue à.
Merci beaucoup. On a compris. Pour vous, il faut que les deux parties, donc l'armée ou les officiels congolais ou ougandais, trouvent un point d'accord, voilà, pour que finalement la LRA soit neutralisée. Pierre Kibaka, qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, d'abord, j'ai saisi l'occasion pour saluer le vice-gouverneur Bangadia. Je l'ai suivi tout à l'heure là, il dit qu'aujourd'hui, les forces armées de la République démocratique du Congo ont la situation en main. Et je pense que comme il l'a confirmé, lui en tant que responsable de la province orientale, il est question que dans la réunion qui se tient demain, dans la réunion d'évaluation, d'autant plus que nous n'avons pas le terme de référence de l'accord qui a été signé entre l'Ouganda et la République démocratique du Congo et le Soudan, je pense qu'il serait de bon gré que les autorités congolaises puissent faire comprendre aux autorités ougandaises qu'elles sont en mesure maintenant de sécuriser les populations de ce côté-là et qu'il était grand temps que les troupes ougandaises puissent rentrer dans leur pays. Mais il faudrait aussi savoir que toutes ces garanties doivent être prises au sérieux. Surtout, il faut préserver la vie de tous ces millions de compatriotes qui sont de notre côté. Il y a aussi un autre problème, je pense, qu'on semble ignorer. Les informations que nous avons font état de la fuite des éléments de la LRA vers la République centrafricaine. Or, que nous savons aussi que notre pays a des frontières très importantes avec la République centrafricaine. Alors, jusque-là, je ne sais pas quelles sont les dispositions qui sont prises de ce côté-là. Donc, je ne précipite rien.
Oui.
Je voudrais seulement, avec, comme le vice-gouverneur Banga qui l'a dit, je sais que c'est un homme de parole, comme l'armée congolaise est en mesure de sécuriser ce côté-là, ils n'ont qu'à faire cette déclaration et faire montrer dans leur réunion d'évaluation qui sont capables maintenant de sécuriser toutes les populations, non pas seulement de la province orientale, mais doit prendre des dispositions pour sécuriser aussi les populations de la province de l'Équateur qui sont frontières avec la République centrafricaine où les troupes des LRA s'en vont.
Voilà. Monsieur le vice-gouverneur, Joseph Bangakia, vous dites que les FARDC sont en mesure de protéger la population, même après le départ des troupes ougandaises, mais là, d'après nos informations, vendredi dernier, un jeune Congolais a été tué, un autre enlevé par les LRA à une trentaine de kilomètres de Dungu. C'est une information fournie par la société civile justement dans la province orientale, et même on nous dit que la population souhaite que la coalition parachève son travail.
Bien, vous dites quelque chose d'extrêmement intéressant, qui a été si bien développé par Kibaka Pierre, c'est qu'il faut bien replacer le contexte du sujet. Il n'y a pas contradiction, comme le soutient l'honorable Kanindia, entre le gouvernement ougandais et congolais. Le gouvernement congolais, souverain dans son espace, a une position. Le gouvernement ougandais fait des propositions. Et donc, la réunion d'évaluation aura pour but de peser le pour ou le contre.
Oui.
Et la décision revient, bien sûr, au gouvernement congolais.
Oui, mais
donc, il n'y a pas du tout contradiction.
Non, mais quand même, à travers les déclarations, on a senti que Kinshasa et Kampala n'ont pas parlé le même langage.
Non, il n'y a pas contradiction, mais il y a des propositions par rapport à une position.
Oui.
Cela est très clair, et les propositions reconnaissent que le dernier mot revient à la RDC.
À ce sujet-là, M. le vice-gouverneur, excusez-moi, sans vous couper, je vais vous redonner encore la parole. C'est juste revenir à ce que nous dit un de nos auditeurs, Jean-Louis Sivilaka de Butembo Nord-Kivu. Lui se demande si la position prise par Kampala de vouloir prolonger son séjour, du moins le séjour de son armée, est-ce que ce n'est pas un agenda caché de l'armée ougandaise?
Non, je pense que nous sommes dans une ère nouvelle. Il n'est plus possible, ni pour l'armée ougandaise, ni pour l'armée rwandaise, de rééditer leurs exploits malheureux. Le contexte est tout à fait différent, ce n'est plus possible. Mais par rapport...
Pour revenir maintenant à la capacité de FARDC,
par rapport à la capacité, comme je vous l'ai dit, nous l'avons bel et bien, et je pense même que dès le départ, les FARDC auraient pu seuls mener à bien ces opérations. Bon, les opérations conjointes sont là. Vous savez, la LRA est dispersée. Nous aurons pendant un certain temps, par-ci par-là, des cas déplorables.
Dispersée, est-ce que c'était un objectif de la coalition?
Disperser la LRA ou la neutraliser?
Bien sûr, la neutraliser.
Mais là, vous ne l'avez pas neutralisée,
elle est dispersée.
Non, je dis que la capacité militaire de la LRA est fortement atteinte. J'ai failli vous donner les chiffres. Vous avez parlé de quelques personnes, et c'est regrettable, qui ont perdu la vie.
Oui.
Avez-vous parlé des personnes libérées par les FARDC?
C'est
les otages,
c'est combien?
Libérés.
C'est combien?
Régulièrement.
C'est combien?
Et j'ai failli vous parler, vous donner la liste des hautes personnalités de la LRA,
je vous en prie,
les hautes personnalités de la LRA que nous prenons, que jour par jour, nous arrêtons.
On attend peut-être que vous nous parlez de Joseph Kony lui-même.
Oui, des proches, son médecin personnel, le chef de son armée, le chef du renseignement de la LRA, une de ses épouses, un de ses enfants,
Et pourquoi pas lui-même?
Non, bon, vous comprenez que Joseph Kony, après 21 ans de guérilla, il n'est pas dans un enclos attendant qu'on le prenne. Donc, l'option qui était prise donne des résultats. Et je pense que le peuple congolais attendait plutôt les résultats qui sont en train de venir de toute évidence.
Il y a encore, toujours d'après nos sources, les FARDC au niveau de Dungu, dans le Haut-Touélé, ne disposent pas de beaucoup de moyens de locomotion. Les moyens sont limités. On parle de quelques véhicules. Ceux qui les voient, ils parlent de 3 véhicules à peine visibles. Et il n'y a pas d'hélicoptère, par exemple, pour des patrouilles aériennes dans cette région. Je ne sais pas si vous avez aussi la même information, Pierre Kibaka.
Bon, de toutes les façons, je n'ai pas une information exacte par rapport à ce que vous venez de dire, mais tout ce que je sais, c'est que les informations que nous avons recueillies sur place à Dungu font état réellement d'un manque de moyens criants de la part de nos forces armées, et ce n'est pas seulement à Dungu ou à Farad, mais cela se remarque sur l'ensemble du pays. Et la raison principale, avancée, c'est qu'on est en train de réformer l'armée après toutes les années de guerre que nous avons connues dans les pays, mais il y a un fait réel, c'est comme ça que même quand vous suivez les déclarations de la MONUC dit qu'elle continue à appuyer les FARDC. En appuyant les FARDC, c'est par rapport à la mobilité des forces armées de la République démocratique du Congo. Donc, de ce côté-là, il y a aussi encore beaucoup à faire.
Dans l'ancien Kanizia, je rappelle que vous êtes député national du MLC, demandez aux forces ou à l'armée ougandaise qui est venue dans cette coalition face au LRA, demandez à cette armée de quitter. Est-ce que ça ne serait pas, de la part du gouvernement congolais, un risque qui exposerait des populations civiles aux éventuelles représailles, par exemple, des LRA?
Bon, tout dépend de la situation actuelle de la LRA. C'est peut-être un élément opérationnel qu'on garderait secret militaire que je vais dire tout de suite, c'est-à-dire la capacité réelle, technique, opérationnelle des forces, de nos forces déployées sur terrain à continuer, n'est-ce pas, à traquer ces forces négatives. Parce qu'il ne faut pas oublier que la situation actuelle de la LRA, si la LRA a pu quitter sa base initiale qui était dans le parc, pour se retrouver maintenant à train d'être capturé ici et là, et les autres sont en train de s'éloigner. L'élément capital, c'est la présence des forces ougandaises. C'est la présence des forces ougandaises qui venaient donner ces coups de tournis-là. Et lorsqu'on recule ces forces-là, ici, le gouvernement peut nous rassurer qu'effectivement, les dispositions sont prises, il y aura un déploiement conséquent de nos forces, il y aura un équipement conséquent de nos forces pour faire ce travail de façon à épargner la population d'abord et de façon à ne pas donner à l'Ouganda demain après demain les prétextes de dire voilà, ces ennemis sont encore là. Là, d'accord, mais ici, je ne voudrais pas qu'on me fie à ce qui vient d'être dit, je pense que c'est à l'issue de l'évaluation sur le principe demain, on saura exactement la position de notre gouvernement. Cet élément, il est important. Je pense que le gouvernement ougandais ne manquera pas d'exiger des garanties nécessaires sur ce point-là. Et il ne faudra pas qu'il y ait vraiment de rater à ce point pour éviter de donner un prétexte au Ouganda.
Là, je ajoute à votre idée, c'est qu'un autre auditeur, Jean-Pierre Mbikondolomo, chef de chefferie Ndolomo de Doruma, il dit que le gouvernement congolais cesse de minimiser le problème de la LRA, que la coalition fasse preuve de beaucoup de détermination au lieu d'attendre que les rebelles viennent vers elle. Voilà, la population vous demande à ce que la coalition poursuive l'opération, même si le vice-gouverneur, vous estimez que les FARDC sont aujourd'hui à même de faire le travail seul.
Oui, vous savez, lorsque à la question relative à l'équipement des FARDC, je tiens à vous dire que la LRA n'a même pas un seul véhicule, même pas une seule moto. Donc, ce n'est pas un genre de combat qui demande des moyens classiques d'équipement.
Mais il faut des moyens pour sécuriser la population. C'est ça, c'est les moyens qui manquent en FARDC.
Non, pas du tout.
Ils n'ont pas besoin d'hélicoptères, par exemple, pour des patrouilles, vous pensez?
Non, c'est toujours un plus, mais je dis, de par la nature de l'ennemi, de par sa tactique,
oui,
de par son armement, les FARDC ont entièrement les moyens de mener à bien ces opérations.
Et parce que la population, d'après nos informations, quand les LRA font des exactions, les FARDC, semble-t-il, ils arrivent souvent en retard.
Non, vous comprenez bien que lorsqu'on
a aux difficultés de ces moyens.
Non, cette région est une région extrêmement enclavée, forestière, où les voies d'accès sont difficiles.
Oui.
Moi, je vais vous dire une chose. Toutes ces localités ne sont sécurisées que par les FARDC. Toutes les patrouilles, à l'heure actuelle, les patrouilles sont soit des patrouilles des FARDC, soit des patrouilles mixtes. Il n'y a aucune patrouille composée uniquement d'éléments ougandais. Et enfin, je dois vous dire, la plupart de ces responsables qui ont été capturés l'ont été par les FARDC. Donc,
même pas par l'appui des Sud-Soudanais, non?
Non, les Sud-Soudanais n'ont jamais traversé les limites territoriales. Leur rôle était de barricader leurs frontières afin que la LRA soit prise en étau. Je vous dis le sentiment que j'ai. Je suis fier des FARDC. Notre armée dans cette partie du territoire national,
oui.
Premièrement, a fait du travail exceptionnel, extraordinaire. Deuxièmement,
malgré les modestes moyens que vous donnez,
s'est remarquablement bien comporté. Je crois, j'ai foi en cette armée, vu les capacités militaires fortement réduites, les FARDC ont les moyens militaires de réduire. Mais, comme vous le savez, c'est une question qui sera discutée demain. Je comprends la requête ougandaise, mais je tiens à faire savoir que ce n'est qu'une requête. Il n'y a pas de contradiction, il n'y a pas d'agenda caché. Les temps ont changé et la RDC est souveraine dans son territoire.
Très sincèrement, Joseph Bangraka, parce que vous êtes mieux placé, c'est vous le vice-gouverneur de la province orientale, vous estimez sincèrement qu'aujourd'hui, les Ougandais devraient partir.
Bien.
Vous devriez vraiment donner un conseil, prenons aux travaux d'évaluation demain. Vous demanderez aux officiels congolais d'autoriser le retour des Ougandais.
Bien, je réponds en toute responsabilité. Je l'ai déjà dit ici. J'ai dit que les FARDC ont les moyens militaires de mettre fin, une fois pour toutes, à la présence de la LRA, qui est elle-même largement affaiblie. Et je soutiens que les FARDC auraient même pu faire le travail tout seul. Mais à l'état actuel des choses,
les frappes aériennes, c'était quand même les Ougandais.
Poursuivez. Oui, mais dans le bilan, on peut en discuter. On peut en discuter, mais je dis que les FARDC sont en mesure de faire ce travail.
Merci. Dans l'ancien Canadien.
Allô?
Oui, votre réaction. J'espère que vous me suivez.
Ah oui, je vous suis. Je pense que je n'ai pas grand-chose à ajouter à ce stade. J'ai dit que j'attendrai d'ici
les travaux de demain.
De demain. Parce que je voudrais bien que ce soit... responsable, par exemple, les ministres de la Défense qui donnent, n'est-ce pas, cette appréciation qui concerne la capacité de nos forces à neutraliser. Et je voudrais dire que ce soit le chef d'état-major général de notre armée qui le dise. Je suis aussi en train de dire que les vice-gouverneurs, ce qu'il dit n'est pas faux, mais je pense que demain, ce sera une occasion pour que les autorités les plus compétentes de ce secteur précis. Il faut parler, je pense qu'il faudra attendre ça.
Mais je tiens à dire que...
Oui, là, c'est le vice-gouverneur, vous répondez. Oui.
Et le chef d'état-major général des FARDC vient de faire 5 jours en province orientale, en compagnie notamment du vice-gouverneur, dont la parole semble être mise en doute par l'honorable Kalim Dia. Donc, je sais de quoi je parle.
Voilà. Et il y a, si on revient encore au même rapport, hein, pour rappeler aux auditeurs que nous parlons... Bien, de ce rapport de l'ONG internationale, Human Rights Watch, qui fait état de près de 900 civils tués entre fin décembre et mi-janvier dernier par les rebelles ougandais de la LRAS, raison pour laquelle cette ONG en appelle au renforcement des casques bleus dans cette partie du pays. Et vous avez suivi, du moins ceux qui nous ont suivis depuis le début de cette émission, vous avez suivi le porte-parole de la MONUC qui a dit que la MONUC n'a pas pour l'instant le moyen de renforcer ses troupes dans cette partie du pays. Mais quand, si je reviens au rapport de Human Rights Watch, ce rapport dit que les trois armées congolaises n'apportent pas aux civils la protection qu'ils méritent. Pierre Kibaka, vous qui êtes président de l'ONG Justice et Libération basée à Kisangani, est-ce que vous partagez cet avis?
Oui, je partage entièrement cet avis parce que vous savez, comme c'était un plan qui a été monté pour neutraliser les éléments du LRA, et sachant la force de nuisance de ces éléments-là, parce qu'il faut bien vous rappeler que ça fait plus de 10 ans que ces éléments de LRA se retrouvaient dans ces mêmes côtés-là. Et pendant tout le temps qu'ils sont restés là-bas, ils ont commis beaucoup d'exactions sur les populations civiles. Et moi, je pense qu'il fallait que la coalition prenne des dispositions utiles pour protéger les populations civiles. Parce que quand vous suivez les fils des événements, chaque fois que les LRA entraient dans les villages, par exemple, quand ils ont brûlé l'église le jour de Noël, il n'y a pratiquement pas eu d'éléments de FARDC qui étaient là. Alors qu'on savait bien que ces éléments de LRA ne pouvaient pas se rendre comme des petits chiens qui répondaient à leur maître, ils allaient nécessairement opposer une résistance. Et surtout qu'ils savaient qu'ils avaient affaire non pas seulement à l'armée congolaise, mais ils avaient affaire surtout à l'armée ougandaise. Donc je pense que toutes les dispositions devaient être prises avant de lancer cette opération pour que nous ne puissions pas déplorer ce qui est arrivé de ce côté-là.
Oui. Peut-être avant de prendre Aurélie, mon papa qui vient de faire son entrée dans ce studio pour la suite des réactions de nos auditeurs, monsieur le vice-gouverneur, encore vous, Joseph Bangakia, puisque il y a ces informations, et vous l'avez dit ici, que les rebelles ougandais sont en fuite vers la Centrafrique. Est-ce que vous allez demander à la RCA, par exemple, de vous aider, de donner un coup de main à la RDC, ou bien fini la coalition, les FARDC seuls peuvent continuer ce boulot?
Non, bon, vous savez, effectivement, la République centrafricaine a déjà été contactée et à ce niveau prend des dispositions adéquates. Mais je tiens à dire que, vous savez, avec les opérations conjointes, loin de toute émotion et loin des questions de politique intérieure, il est bon de voir les résultats que nous recherchons. Donc, demain, on peut, si on le juge nécessaire, recommander la poursuite des opérations conjointes. Tout comme nous pouvons, à ce stade, estimer qu'il est temps que nous continuions tout seuls. Mais je tiens à ce que cela soit dépolitisé. Oui. Ce sont des questions militaires de sécurité. Je demande qu'elles soient traitées comme telles. Et bien entendu, la LRA se trouve loin des frontières ougandaises à ce stade. Donc, je crois que l'Ouganda aussi ne peut pas nous dire que... Je salue leur soutien, mais ils n'ont pas plus de soucis pour les Congolais que nous-mêmes. Donc, c'est en responsabilité, en toute connaissance de cause, que nous avons une position qui peut évoluer, mais il est clair de la souligner à ce stade.
Voilà. Et si on vous demandait en un mot de donner le bilan, finalement... Je dirais que c'est une sorte d'avant-évaluation de demain. Quelle situation vous pouvez présenter de ces opérations à ce stade aujourd'hui?
Bien, du point de vue humanitaire, nous aurions pu éviter les tragédies connues en déployant mieux nos troupes, en préparant mieux les bombardements.
Vous avez pu les déplacer aujourd'hui, au moment où nous parlons
Pratiquement sur toute la zone, nous tournons autour de 85 000 déplacés. Bien, mais l'aide humanitaire s'organise beaucoup mieux à tous les niveaux. Mais du point de vue militaire, les objectifs sont atteints. La LRA a sa capacité militaire fortement réduite.
Les troupes sont dispersées,
mais pas neutralisées. Plusieurs commandants sont neutralisés. La chaîne de commandement et de ravitaillement est brisée. La LRA est traquée. Les localités, en général, sont beaucoup mieux sécurisées. À ce stade, du point de vue militaire, sécuritaire, l'opération est bel et bien un succès.
Évidemment, nous pouvons que souhaiter, ainsi que tout le peuple congolais souhaite, que la population de cette partie du pays retrouve la paix. Mais si jamais demain il y avait des représailles, ça serait dommage, ça va contredire votre optimisme, M. le gouverneur.
Non, vous savez, des petits groupes éparpillés dans une zone difficile d'accès, ici et là, il y aura des petits groupes qui vont attenter à la vie de la paix de la population.
Oui.
Mais les massacres à grande échelle me surprendraient beaucoup, car toutes les localités importantes sont bel et bien protégées par les FARDC, par la police nationale congolaise, et la sécurité est mieux assurée qu'auparavant.
Merci beaucoup. Bonsoir, Aurélie.
Bonsoir.
Que disent nos auditeurs?
Papi Naego, dans la ville de Gemena en Équateur, dit que si les civils sont massacrés, c'est à cause du caractère prématuré des attaques, de la coalition et la discordance liée à cette question au niveau des institutions de la RDC. Pour lui, il faut donc impliquer la police nationale qui a la charge traditionnelle de protéger les personnes et leurs biens. Et puis nous avons le docteur Bakwa en Ituri qui estime que les FARDC seuls ne sauraient maîtriser la LRA une fois l'armée ougandaise de retour. On ne se trompe pas, ces forces sont là depuis plusieurs années sous la barbe du gouvernement et de son armée. Et enfin nous avons Imongo Junior à partir de Maagi en Ituri qui pense que l'armée ougandaise n'a jamais réussi à maîtriser la LRA en Ouganda et comment cette armée peut prétendre neutraliser ces rebelles à l'est de la RDC.
Merci beaucoup Aurélie, et nous disons merci à tous ceux qui nous ont aussi écrit. Nous pensons à Adélard Maté de Butembo, Pitoua de Maagi et Modeste de Kalemio Katanga qui aimerait que le gouvernement accorde un délai supplémentaire aux troupes étrangères pour qu'on en finisse
une fois pour toutes. Et justement, par rapport à ce message de Modeste depuis Kalimi, qu'est-ce que vous pouvez dire de l'ancien Kalindia? Est-ce que vous, qui continuez à attendre, comme tout le monde d'ailleurs, l'issue des travaux de demain, vous dites quoi par rapport à ce souhait, cet auditeur?
Non, écoutez, je préfère de l'optimisme qu'on affiche quant à l'affaiblissement de la LRA, étant donné que la LRA fait 21 ans en Ouganda, il y a plus d'une fois où l'armée ougandaise se disait être venue seulement au bout de la LRA, mais là, il aura toujours créé des surprises. Et franchement, étant donné que ces surprises sont souvent orientées contre la population, je voudrais vraiment demander à ceux qui ne prennent pas cette question vraiment au bout des lèvres. Il faut qu'on prenne ça vraiment sérieux. Les forces ougandaises rentrent, c'est vrai. On peut dire aujourd'hui, les LRA se sont dispersés, sont petits groupes. Est-ce qu'ils ne sont pas à mesure, il n'y a aucune possibilité de se réorganiser. Ça, c'est une autre question qu'il faut se poser. Est-ce qu'il n'y a aucune possibilité de se réorganiser? Quand on sait que j'ai entendu sur le vice-gouverneur insister plus d'une fois sur le fait que la zone est quand même difficile d'accès, c'est une forêt et tout ça, et LRA, ils sont depuis des années, est-ce qu'ils ne sont pas à mesure de se réorganiser? Et si cet aspect est éviter, ou je ne sais pas comment on peut l'éviter, oui, ça va, mais s'ils peuvent se réorganiser, ça veut dire que la possibilité, en tout cas, de commettre encore des massacres en masse, n'est pas exclue totalement.
Donc, pour vous,
je voudrais essentiellement éviter la prudence.
Voilà.
Je voudrais éviter à la prudence,
merci,
parce que lorsqu'on dit que les toutes les localités sont sécurisées,
oui,
c'est bien, mais est-ce que là où les gens se retrouvent maintenant, nous avons vu en Ouganda, et les déplacés, la population là où la LRA était évitée, était déplacée. Ils étaient en fait, comme on l'appelait, déplacés forcés.
Merci.
Et il fallait les nourrir. Est-ce que toutes ces dispositions sont prises?
Merci.
Pour que la population soit là où il y a des dispositions sécuritaires, jusqu'à ce qu'on soit sûr que les chats des populations sont sécurisés.
Merci, Donaté. On a compris votre idée. Donc, il faut de la prudence de la part des autorités congolaises. Il faut des garanties de sécurité de la population. Et Pierre Kibaka, par rapport
Le souhait de tous les Congolais, c'est qu'il faudrait que nous ayons une armée qui puisse sécuriser toutes les personnes sur l'ensemble du territoire national.
Oui, bien entendu.
Comme le vice-gouverneur l'a dit, si réellement l'armée congolaise aujourd'hui est capable, dans un premier temps, de sécuriser cette partie qui a commis des massacres, nous pouvons le saluer. Mais notre crainte est qu'on continue avec des actions où seulement il y a des attaques. Il faudrait que des mesures soient prises pour l'ensemble du pays par rapport à la situation générale. Mais il y a aussi un autre élément important, nous avons parlé du domaine militaire, mais il y a aussi le domaine humanitaire. Pas plus tard qu'hier, lors de la séance de l'Assemblée provinciale, ici à Kisangani, la séance que j'ai suivie personnellement, les députés provinciaux se sont plaints de la manière dont l'aide humanitaire arrive à ces populations-là. Ils ont même mis en place une commission d'enquête pour aller vérifier. Donc, il faudrait que toutes les choses soient prises
en compte. Est-ce qu'ils dénoncent exactement?
La population vive réellement dans la sécurité.
Oui, Pierre, c'est pas ça, parce qu'on est presque à la fin de l'émission. Que dénoncent exactement ces députés provinciaux?
Les députés provinciaux ont déploré le fait que dans les territoires des Dungu, des Faradje et partout où les événements se sont passés, malgré tous les dons qui sont annoncés à la presse, il semblerait que ces dons-là n'arrivent pas en totalité au niveau de ces localités. Donc, toutes ces aides humanitaires du gouvernement central comme du gouvernement provincial, c'est ce que les députés provinciaux ont déclaré hier, et ils ont même mis en place une commission qui doit descendre sur les lieux pour amener des enquêtes par rapport à ces aides humanitaires destinées à ces populations éprouvées.
Voilà, on va laisser le vice-gouverneur terminer parce qu'il ne reste plus qu'une petite minute. Monsieur le vice-gouverneur Joseph Bangakia, est-ce que tout est réuni et vous allez aussi réagir par rapport à l'aide qui doit arriver aux déplacés?
Oui, bon, pour l'aide, je crois que l'Assemblée provinciale fait son travail. Les difficultés, ce sont les difficultés d'acheminement et les députés se plaignent de la lenteur parce que les besoins sont grands. Mais déjà, je peux dire ici que
tous les territoires sinistrés sont désormais atteints par l'aide à compte-gouttes. Ouais. Par rapport à la situation sécuritaire à New York, demain, ayant l'esprit ouvert, c'est le résultat qui compte. Si on décide qu'on accorde un délai supplémentaire aux opérations conjointes, il ne faut pas que les gens crient qu'on a vendu le pays, que c'est cela. Mais, comme le disent tout le monde, nous sommes conscients de notre prudence, de nos responsabilités. Donc, nous avons de la prudence à revendre.
J'espère que vous allez penser aussi à ceux qui ont été enlevés par les rats.
Et il y a plusieurs otages libérés.
Merci beaucoup. Merci, c'est la fin de cette émission. Sylvain Matundu était à la mise en onde, Pierrot et la Mégie à la réalisation, avec le concours de Guy Maté, Aurélie Moupapa et Titi Mpoutou. Moi, c'est Jean-Claude Toumakamanga. Je vous dis merci de nous avoir suivis.
Les 20 horas 6, c'est dans le plus à Ping, c'est à l'est du pays.